Forum Opéra, émission spéciale.
Et nous sommes avec Bernard Faucroulle, ancien directeur de La Monnaie, ancien directeur du Festival d'Aix-en-Provence, qui publie chez Actes Sud un livre d'entretien, Faire vivre l'opéra. C'est un vaste programme. Bonjour Bernard Faucroulle.
Bonjour Camille.
On a le sentiment parfois, quand on est face à un directeur d'opéra, que le préambule voudrait qu'on s'excuse des sommes colossales investies par la communauté et du retour relatif que cette même communauté recevrait de l'opéra, avec sa tarification, il faut le dire, parfois un peu folle, et ses mises en scène qui souvent sont déconnectées de la réalité de la société. J'ai l'impression que votre livre est une tentative de réponse à cette question essentielle.
Elle l'est indirectement, parce que mon souci premier n'est pas de légitimer l'existence de l'opéra ou des subventions publiques qui vont vers l'opéra, en particulier en Europe. C'est plutôt de réfléchir sur est-ce que l'opéra est encore un art vivant ? Est-ce qu'il peut le rester ? Est-ce qu'il peut le devenir davantage ? Et je pense que si la réponse est positive, la question de sa légitimité suivra. Alors que si l'opéra devient un art de musée, un art qui est essentiellement tourné vers le passé, voire vers un petit nombre d'œuvres que l'on répète pour flatter le public, à ce moment-là, je crains beaucoup qu'à relativement court terme, on aille vers une crise assez grave, comme celle que l'on voit aujourd'hui en Italie, qui me désole, puisque l'Italie est par excellence le pays qui a vu naître l'opéra, qui l'a fait vivre pendant plusieurs siècles de manière absolument étincelante, et qui aujourd'hui nous offre un panorama absolument désolant, dont mes amis italiens sont d'ailleurs les premiers à se plaindre.
Qu'est-ce qui se passe en Italie, pour ceux qui ne connaissent pas le dossier ?
Eh bien, en Italie, on a tous les éléments d'une crise annoncée depuis plusieurs décennies, à vrai dire. Il y a évidemment eu encore de très très belles époques, notamment quand Claudio Abbado dirigeait la Scala. C'était encore une très belle époque pour cette maison-là. Mais sinon, les ingrédients d'une crise, que sont-ils ? Ils sont d'abord le fait d'un répertoire qui ne bouge pas, qui reste très très fermé sur la musique plus ancienne, la musique des 17e et 18e siècles, très très peu pratiquée en Italie, très peu ouverte sur la musique contemporaine, et donc un répertoire qui couvre à peu près deux siècles, on va dire de Mozart et encore à Puccini, voire Menotti. Bon, c'est évidemment très différent de ce qui se pratique aujourd'hui dans toute une série de scènes d'opéra en Europe, qui sont beaucoup plus ouvertes sur la redécouverte d'œuvres anciennes, etc. Et surtout la création. Ensuite, c'est un public qui... Il n'y a pas de travail véritablement sur le public. Donc le public, ce sont les abonnés. Mais comme périodiquement, il y en a qui disparaissent, si on ne les remplace pas, le public se rétrécit. Et donc le public de l'opéra en Italie est un public qui est majoritairement relativement âgé, qui n'est pas... Il y a très peu de travail éducatif de qualité qui se fait. Bon, dans certaines maisons, oui, mais ça n'est pas une règle générale. Et donc, le rapport de l'opéra avec sa ville, avec sa région, est en train de s'épuiser. Vient s'ajouter un troisième point, c'est que les jeunes artistes, en dehors des jeunes chanteurs qui sont... peut-être davantage suivi, mais les jeunes metteurs en scène, chefs d'orchestre, compositeurs sont extrêmement peu suivis par les maisons d'opéra italiennes. Quand j'ai passé commande à La Monnaie dans l'opéra de Luca Francesconi qui était Ballata, je n'ai trouvé à l'époque aucun partenaire, aucun coproducteur, aucune maison italienne intéressée pour s'associer à cette création d'un compositeur italien majeur. Et puis, il y a enfin la question des coûts. C'est que les coûts des structures italiennes, des structures lyriques, sont extrêmement lourds, avec des chœurs pléthoriques, des règlements de travail qui viennent du 19e siècle, et qui n'offrent pas les meilleures conditions pour faire un travail de qualité. Dernier exemple, on a beaucoup parlé... encore ici récemment, d'un des grands metteurs en scène actuels en Italie, comme Romeo Castellucci, l'un des plus importants metteurs en scène européens, qui est italien, ne s'est jamais vu offrir une seule mise en scène d'opéra dans son propre pays. Donc voilà, des coûts trop élevés, des planifications qui viennent trop tard, un mal gouvernement aussi sur le plan politique. Voilà, tous ces éléments-là mis ensemble créent les ingrédients d'une crise qui est globale, qui n'est pas que politique, qui n'est pas qu'artistique, qui n'est pas que financière ou économique, qui est une crise dans sa globalité. Et c'est évidemment un cas, je dirais presque d'école, qui nous permet de voir, à contrario, tout ce que l'on pourrait faire pour éviter cette dégradation.
Est-ce qu'on ne peut pas imaginer, Bernard Focal, pour se faire l'avocat du diable, que comme dans les arts plastiques, le musée et l'art vivant puissent coexister ?
C'est absolument possible. D'ailleurs, moi, j'ai toujours pensé, dans ma pratique artistique et dans les programmations que j'ai mises en œuvre à Bruxelles et à Aix, qu'il n'y a aucune barrière, aucun fossé entre le répertoire, la tradition d'un côté, et la création de l'autre. Je pense au contraire que le répertoire a besoin d'artistes contemporains, et en particulier de compositeurs, d'écrivains, mais aussi de chorégraphes, de metteurs en scène, d'artistes créatifs de toutes les disciplines, pour pouvoir vivre. Et à l'inverse, je n'imagine pas une création qui soit coupée de toutes ses racines. Et d'ailleurs, les grandes créations auxquelles on assiste ces années-ci, parce qu'il y a de grandes créations, il faut le dire, qui ont un public, qui voyagent, qui circulent. Il y a un nouveau répertoire de l'opéra contemporain qui est en train de se mettre en route, si je puis dire, ce qui n'était pas le cas à la fin du XXe siècle. Donc il y a vraiment un changement important. Et ce répertoire-là, très souvent, il entretient des relations assez vivace avec différentes époques. Ça peut être le début du baroque, ça peut être Verdi, ça peut être Wagner, ça peut être Berg, etc., ou Debussy. Mais voilà, donc il n'y a pas à choisir l'un contre l'autre, il y a peut-être à rééquilibrer les choses. Je pense que si l'on fait de la création, soit si on n'en fait pas, ce qui est le cas d'un certain nombre de maisons, et je trouve ça dramatique. Soit si on le fait uniquement par obligation, ou pour avoir de temps en temps une première qui va amener de la presse, je pense que ça ne peut pas marcher. Si on le fait par conviction, et que l'on arrive à passer commande ou à faire revivre des ouvrages contemporains majeurs, de quelque taille que ce soit d'ailleurs, parce que je crois aussi beaucoup aux petites formes qui font vivre l'opéra aujourd'hui, à ce moment-là, je pense que le rééquilibrage qui se fait entre la tradition et la création est dans l'intérêt de tous.
Bernard Focal, il y a aussi une question préliminaire qui est celle de la culture des directrices et des directeurs de maisons d'opéra, parce que vous avez baigné dedans à Liège quand vous étiez étudiant, cette musique d'aujourd'hui. Est-ce qu'on ne peut pas imaginer que certains dirigeants manquent de cette culture précisément qui pourrait les guider vers des créations intéressantes ?
Mais je crois que le profil des directeurs d'opéra est extraordinairement varié. Il y a eu Gérard Mortier, était juriste, était un directeur des plus artistiques que l'on ait, des plus artistes que l'on ait connu. On a des directeurs d'opéra qui sont chefs d'orchestre, il y en a qui sont metteurs en scène, il y en a qui connaissent très très bien le répertoire contemporain, d'autres qui le connaissent moins bien. Je ne pense pas que la question soit essentiellement une question de connaissance, c'est plutôt une question, me semble-t-il, de vision. C'est dans le monde qui est le nôtre aujourd'hui, peut-on diriger une institution d'opéra d'une manière purement muséale ? Un certain nombre d'institutions ont pris ce pari-là. Le Metropolitan Opera de New York, avant Peter Gelb, était un vrai musée prestigieux de l'opéra, sans la moindre création pendant 20 ans. L'Opéra de Vienne, à la fin du XXe siècle, était véritablement, il le reste encore un petit peu, un musée. Or, pour moi, une maison d'opéra qui travaille le répertoire d'une manière intelligente et sensible, avec un point de vue contemporain, n'est pas une institution muséale. Ou en tout cas, elle rejoint ce que les meilleurs musées font aujourd'hui, c'est-à-dire de faire appel à des artistes contemporains pour venir se confronter, pour venir apporter leur éclairage sur les chefs-d'œuvre du passé. Et c'est cette confrontation dont nous avons besoin aujourd'hui au XXIe siècle. Nous avons, grâce au développement de techniques de communication, un accès aux cultures du monde entier et aux cultures de temps reculé comme jamais dans l'histoire de l'humanité. C'est une chance dont nous pouvons profiter ou que nous pouvons laisser passer en considérant simplement que voilà, ces cultures ont existé, mais elles peuvent dépérir.
Mais pour prendre un exemple frappant qui a marqué le Festival d'Aix et votre direction du Festival d'Aix, la création de Written on Skin de George Benjamin. Avant Written on Skin, George Benjamin est quelqu'un d'extrêmement estimé dans le milieu de la musique d'aujourd'hui. Son opéra précédent, qui est une petite forme avec Martin Crimp Into the Little Hill, a été édité sur un label plutôt confidentiel. Vous l'avez invité à la Monnaie d'ailleurs à diriger Pelléas et Mélisande, je pense, mais c'est parce que vous le connaissez, parce que vous êtes dans ce milieu-là, parce que vous savez aussi avec quel metteur en scène le mettre sur scène, que cette création, Written on Skin, a lieu.
Oui, elle a bénéficié effectivement de contacts très amicaux que j'ai pu créer au début des années 90 avec George Benjamin. Et donc, ça a mis à peu près 20 ans, hein, entre les premiers contacts et l'aboutissement de l'opéra. Et puis, ça a pris dans les 7 dernières années aussi, dans les 6 dernières années, vraiment une dimension d'accompagnement qui me semble très importante d'ailleurs, d'accompagner les créations d'une manière adéquate à chacune d'entre elles et en dehors des standards habituels. On ne monte pas, à mes yeux, une création mondiale comme on monte une nouvelle version d'un opéra de Verdi ou de Mozart. Ça n'est pas vrai. Il y a d'autres, il y a un autre, une autre forme d'accompagnement éventuel qui doit être très différente selon les cas, selon l'expérience des maîtres d'œuvres artistiques, etc. Alors, dans le cas de George Benjamin, cette création a eu lieu. Elle a d'emblée été soutenue par 6 ou 7 institutions européennes qui m'ont accompagné comme coproducteur ou coprésentateur. Et puis, la production aixoise de Written on Skin, mais aussi d'autres productions nouvelles ont vu le jour de cette œuvre. Et donc, cette œuvre, aujourd'hui, elle a commencé à voyager dans le monde entier. Elle a connu des dizaines de représentations sur une période de temps encore très limitée, très resserrée. Et je dirais qu'il en va un peu de même pour les opéras de Philippe Oussmans. Quand je suis arrivé à la Monnaie, j'ai eu la possibilité de lui passer commande pour Reigen. Eh bien, Reigen est une œuvre qui est un opéra qui est aujourd'hui rentré complètement en répertoire, qui se donne sur de grandes scènes, qui se donne avec des jeunes chanteurs dans des opéras studios, dans des conservatoires et des universités.
En décembre, au Mozarteum, d'ailleurs.
Prochainement, au Mozarteum à Salzbourg. Et voilà donc, et on pourrait dire aujourd'hui de la majorité des opéras de Philippe Boussemans qu'ils sont rentrés aujourd'hui dans le répertoire, en tout cas européen. Malheureusement, pas encore en Amérique, mais je pense que cela ne saurait tarder. Du coup, il me semble que si certains se sentent moins en prise avec la musique contemporaine, il y a la possibilité aussi d'aller chercher les meilleures œuvres. Moi, j'ai eu énormément de plaisir à accueillir à la Monnaie les 3 sœurs de Peter Rudfoch, dont j'avais vu la création à Lyon. Je n'en étais pas le commanditaire et j'ai accueilli quelque chose qui était, là, je pense, la 50e représentation des 3 sœurs. Et ça a été pour nous tous à la Monnaie un moment absolument magique parce que l'opéra et la production étaient sublimes.
Précisément, il y a ce côté un peu égotique de certains directeurs de maisons d'opéra qui voudraient que l'opéra contemporain est le bienvenu s'il s'agit de la création ou d'une coproduction, mais il y aurait quasiment quelque chose d'indigne à aller chercher des œuvres qui ont pu marcher ailleurs. En tout cas, ce phénomène que vous venez de décrire, on le constate assez peu.
Oui, il me semble quand même constater une évolution. Je n'ai pas fait l'étude, mais on pourrait prendre des créations des années 80 et 90 en Europe et voir le nombre de représentations que ces ouvrages ont connues. Prendre aujourd'hui le nombre de représentations que des ouvrages comme Pinocchio, comme de Philippe Boussemans, comme Written on Skin, comme d'autres opéras de Pascal Dussapin ou Wolfgang Grimm connaissent aujourd'hui, et je pense qu'on serait sur des chiffres plutôt très satisfaisants, c'est-à-dire que l'évolution va dans le sens d'une meilleure circulation des œuvres. Mais je pense que nous pourrions faire encore beaucoup mieux, et donc c'est une question de. Moi j'étais par exemple toujours très impressionné de voir la manière dont les compagnies de danse et de théâtre, mais aussi de danse, tournent et amortissent leur production sur des dizaines de représentations. et pour les plus importantes d'entre elles, ça peut monter à des centaines de représentations. Le monde de l'opéra est loin derrière, pour des raisons certes qui sont liées à son économie, à la lourdeur des productions, mais dans une période de raréfaction des ressources, on peut se dire aussi que de se réunir, de mutualiser un certain nombre de coûts, de production et autres, c'est une bonne manière de faire vivre l'opéra aujourd'hui.
Alors, il y a les maisons d'opéra qui fonctionnent à la manière des stagions et d'autres qui fonctionnent avec leur répertoire. On voyait l'année dernière à l'Opéra de Paris le Sacre du Printemps de Pina Bausch, une production qui a plusieurs décennies dans les jambes et qui n'a rien perdu de sa verdeur. On s'étonne que les maisons d'opéra qui fonctionnent en stagione n'aient pas du tout accepter ce principe de production comme œuvre d'art. Je pense à certaines de vos productions emblématiques qu'on peut quasiment plus voir aujourd'hui. Prenons l'Orfeo de Trisha Brown, prenons même la Callisto de Herbert Wernicke. C'était des œuvres d'art quasiment indépendantes de l'œuvre qu'elles portaient, mais on ne peut plus les voir, elles sont comme perdues. Est-ce que là, il n'y a pas quelque chose qui est problématique ?
Alors effectivement, on est rentré dans une époque qui est une époque marquée par l'interprétation. Hein. C'est un phénomène qui s'est accentué au fur et à mesure du XXe siècle, qui est un phénomène nouveau parce que les siècles précédents étaient des siècles de création. On interprétait très peu, on oubliait rapidement, alors que le XXe siècle n'a cessé de redécouvrir les générations qui nous avaient précédées, et du coup ça a donné lieu à ce mouvement d'interprétation. Les metteurs en scène, les chefs d'orchestre aujourd'hui, et leurs lectures sont devenues beaucoup plus importantes qu'elles n'ont pu l'être, même encore dans la première moitié du XXe siècle. Alors, aujourd'hui, on est encore peut-être assez marqué par le fait qu'une interprétation, et c'est d'ailleurs un peu ma conviction, c'est un rapport qui se crée avec une œuvre à un moment précis de l'histoire. Et que 30 ans plus tard, une interprétation va perdre de sa pertinence, de sa légitimité, parce que le monde aura changé. L'œuvre, elle, ne change pas, mais l'interprétation, il est légitime qu'elle évolue, parce que la manière de percevoir, par exemple, Così fan tutte de Mozart, aujourd'hui, n'est pas la même qu'il y a 30 ans, et ne sera pas la même dans quelques années, parce que toute l'évolution du rapport entre les genres et les sexes aujourd'hui est dans une telle évolution qu'il y a un certain nombre de choses qui posent des problèmes, par exemple, et que les metteurs en scène commencent aujourd'hui à aborder, comme on l'a fait sur Wagner dans l'après-guerre, avec souvent pas mal de courage. Donc, est-ce qu'on peut néanmoins considérer, ce qui est un peu inclus dans votre question, que des interprétations, des grandes mises en scène deviennent à ce point des points de référence, qu'elles deviennent elles-mêmes des éléments qu'on va retenir comme des œuvres en soi. Ce n'est pas exclu, je ne sais pas s'il faut le souhaiter, parce que je crains un tout petit peu que si on se mettait à reprendre les grandes mises en scène de Strehler, les grandes mises en scène de Wilhelm Wagner, etc., mais sans la présence de ces géants et de toute la vie qu'ils insufflaient auprès des chanteurs avec lesquels ils travaillaient, et puis ils retravaillaient en permanence, c'était rarement deux fois exactement la même chose. Si nous n'avons pas cette vitalité-là, nous allons à nouveau rentrer dans une dimension muséale qui ne sera pas vivante. Mmh. Et donc, il est probablement préférable d'inviter une nouvelle génération d'artistes à venir relire ces grands ouvrages-là, quitte à le faire peut-être aujourd'hui en diagonale, c'est-à-dire de manière triangulaire, en allant relire un opéra de Mozart, mais aussi la manière dont Strehler l'avait perçu à son époque, et d'en faire une relecture à travers les yeux de Strehler. Pourquoi pas ? Je pense que c'est une des pistes qui s'offre à nous, mais moi j'ai eu l'occasion de voir la reprise des Noces de Figaro dans la mise en scène de Strehler à l'Opéra de Paris. C'était déjà il y a pas mal d'années et Strehler était encore vivant. Et j'ai trouvé à l'époque qu'il aurait mieux valu ne pas la reprendre dans ces conditions-là.
Pour prendre le contre-pied, Bernard Faucroule, convoquons Gérard Mortier, qui, tout au long de sa carrière et un peu partout où il est allé, sauf dans la Roure, je pense, a traîné derrière lui sa mise en scène, enfin pas la sienne, mais celle qu'il avait initiée de la Clemenza di Tito par les Herrmann, créée à la Monnaie dans les années 80, au début des années 80, puis il l'a prise un peu partout, Salzbourg, l'Opéra de Paris, enfin Madrid, où la création a eu lieu post-mortem, vu que c'était il y a 2 ans. Là encore, en assistant à cette mise en scène, on était abasourdi par sa modernité, par le fait qu'elle n'ait pas pris une ride, justement. Il n'y a pas là, justement, quelque chose qui serait de l'ordre du curateur de musée et la capacité de distinguer une mise en scène qui serait à la fois emblématique de son temps et qui pourrait aussi témoigner de son époque, mais dont la dramaturgie n'aurait pas perdu toute son énergie au fil des ans.
Oui, mais l'exemple est intéressant parce que cette Clémence de Titus, Gérard Mortier était là, il décidait de la reprogrammer dans un nouvel environnement. D'ailleurs, il y a eu aussi des évolutions dans la scénographie. Je pense que ça n'a pas toujours été les décors originaux de la Monnaie, mais il y a eu un retravail qui s'est fait. Et puis, les Herrmann, le couple Herrmann, qui était le metteur en scène et scénographe du projet, a été présent sur chacune des reprises. Donc, ils pouvaient garantir de leur côté et du côté de l'intendant la vitalité et la justesse dramaturgique du propos. Voilà, ce sont des conditions qui font effectivement, qui donnent sens à une telle reprise. Et je pense que pour le public de Madrid, de pouvoir découvrir il y a quelques années une production qui avait une trentaine d'années d'âge, ou une quarantaine d'années bientôt, ça pouvait faire du sens. C'est vrai que si je pouvais revoir aujourd'hui la Callisto de Wernicke, j'en serais absolument ravi parce que j'en ai gardé un souvenir génial. De même, l'Orfeo de Trisha Brown que vous disiez. Sauf que, par exemple, Trisha Brown n'est plus parmi nous. Et donc, pour faire revivre cet opéra avec la même qualité chorégraphique, la même qualité d'investissement de la part des chanteurs, ce n'est pas évident pour des assistants longtemps après la création.
Pourtant, quand vous étiez directeur de la Monnaie, mais dites-moi si je me trompe, vous avez programmé au Cirque Royal Café Müller et le Sacre du Printemps de Pina Bausch, qui était encore là ? Oui,
absolument.
Mais aujourd'hui, elle ne l'est plus.
Alors, pour moi, ça a été un souvenir absolument magique d'inviter Pina Bausch, d'ailleurs pour plusieurs productions à la Monnaie, mais notamment pour ce diptyque historique d'anthologie. Et elle a dansé elle-même encore Café Müller sur la scène du Cirque Royal. Et puis, après Café Müller, le choc du Sacre du Printemps, c'était absolument magique. Alors peut-être en va-t-il un petit peu différemment des œuvres chorégraphiques, parce que quand on voit le Sacre du Printemps d'un grand chorégraphe, en l'occurrence de Pina Bausch, bon, la musique de Stravinsky, elle est là, elle est très présente, elle est très vivante, mais ça n'est pas véritablement une interprétation, une mise en scène de la musique de Stravinsky. C'est la matière de Pina Bausch qui est là. Et cette matière-là, il serait évidemment infiniment regrettable qu'elle disparaisse au moment où la chorégraphe nous quitte. Donc il me semble tout à fait pertinent que des grandes chorégraphies de Pina Bausch, de Maurice Béjart, d'autres grands noms de Trisha Brown continuent à circuler dans l'esprit le plus fidèle qu'on pourra trouver dans leur compagnie. Mais c'est pas tout à fait la même chose donc que la question d'une interprétation par un metteur en scène d'une œuvre du répertoire. Maintenant, il n'est pas exclu que on entre dans une période où le Metropolitan Opera a aujourd'hui au répertoire l'Electra de Patrice Chéreau. Patrice Chéreau était décédé avant même la première reprise à New York. Et je pense que New York va continuer à reprendre, et peut-être cette œuvre sera-t-elle encore au répertoire dans 10 ou 15 ans. Je ne peux pas m'empêcher de craindre que dans 10 ou 15 ans, même si visuellement on va garder la trace de la production originale, que l'esprit qui animait les chanteurs, qui était galvanisé par le travail de Patrice Chéreau, se sera un petit peu perdu en chemin.
Alors Bernard Focroul, on revient à ce livre, Faire vivre l'opéra. Il y a énormément de chiffres dans la première partie, des chiffres liés essentiellement à l'implémentation du festival d'Aix-en-Provence dans la cité, avec cet étrange paradoxe du festival pour étrangers qui arrive par bus entier de grandes métropoles, mais qui échappe à la logique quotidienne de la ville. Comment est-ce qu'on fait quand on arrive à la tête de ce festival pour essayer d'impliquer la vie locale dans un festival qui, il est vrai, reste très inaccessible, en tout cas pour ces grandes soirées.
C'est vrai qu'il y a une quinzaine d'années, peut-être dans les années 90, je me posais la question, est-ce qu'un festival comme Aix ou comme Salzbourg ont-ils encore la capacité de retrouver des racines dans leur territoire? C'était pour moi une vraie question. Et mon expérience de 12 ans à Aix m'a convaincu que c'était absolument possible et qu'au fond, ce sont les mêmes stratégies que celles qui font qu'un opéra peut s'ancrer ou non dans sa cité, qui peuvent permettre à un festival de s'ancrer ou non dans sa cité et dans sa région. Alors, c'est un peu plus compliqué pour un festival parce que la période est beaucoup plus courte et notamment correspond avec les vacances d'été, mais ça ne nous a pas empêché, par exemple, de mener des actions à long terme avec les écoles, avec le monde associatif, de mettre en route des projets participatifs qui incluaient des centaines de chanteurs amateurs, des chœurs, des jeunes musiciens, etc. Et aujourd'hui, je ne vois pas ce qui empêcherait quelque institution culturelle que ce soit, d'ailleurs, de faire ce travail-là. Et c'est vrai que quand je suis arrivé à La Monnaie en 1992, j'ai créé un service éducatif, ce qui est une chose qui n'allait pas encore de soi en Europe continentale. Les Anglo-Saxons étaient beaucoup plus avancés par rapport à ça. Aujourd'hui, presque toutes les maisons d'opéra se sont dotées d'un service éducatif, plus ou moins innovant, plus ou moins performant selon les cas. Mais je pense qu'on pourrait aller beaucoup plus loin. Et à partir du moment où on commence à réfléchir aux portes d'accès pour les jeunes, pour les personnes, pour ce qu'on appelle les publics empêchés ou les publics éloignés du monde de l'opéra, notamment les publics qui viennent des communautés d'autres pays, d'Afrique, d'Asie, etc., qui n'ont pas la tradition du monde de l'opéra, se pose aussi la question de savoir est-ce qu'on se contente de leur ouvrir les portes ou est-ce qu'on entame avec eux et avec elles un dialogue qui fait qu'à un moment donné, une maison d'opéra va peut-être programmer des musiques africaines, des musiques d'Extrême-Orient, etc., parce que cela fait partie du présent de la culture dans le monde qui est le nôtre. Et du coup, ça peut nous amener à inviter des artistes venant d'autres cultures vers le monde de l'opéra. Donc j'ai eu le plaisir de commander des opéras qui ont été chantés en arabe, qui ont été... Je pense aussi à Toshiro Ozawa, un compositeur japonais absolument admirable, qui est venu à l'opéra avec une partie de son bagage extrême-oriental. Et je pense que c'est très important pour le monde de l'opéra aujourd'hui de pouvoir s'ouvrir aux cultures du monde.
Bernard Focroul, on parlait de cette logique sociale. Peut-être que ça vous marquait moins à Aix, mais prenons un bâtiment comme la Monnaie, qui est une ancienne bâtisse avec des escaliers distincts qui montent aux étages où les places coûtent moins cher et qui sont quelque part porteurs de stigmates d'inégalités sociales qui ne sont plus de notre époque. Le directeur d'opéra n'a pas le choix, doit travailler avec ces bâtiments-là, doit vendre des places moins chères à moindre visibilité et des places plus chères à excellente visibilité. Comment fait-on pour vivre avec ce paradoxe-là?
Alors, première remarque, je pense qu'il faut arrêter de vendre, notamment aux jeunes, des places moins chères avec une mauvaise visibilité. Je pense que c'est absolument contre-productif. Il faut mettre en place des systèmes de tarification qui permettent aux nouveaux spectateurs d'arriver et de profiter de l'opéra dans les meilleures conditions possibles. Ça, c'est une première chose et je pense que continuer à penser qu'on va créer un nouveau public en leur vendant des places pas chères mais mauvaises, c'est un très mauvais pari sur le présent et sur l'avenir. Donc ça, je
Ça,
pense que...
vous le faisiez déjà à la Monnaie, je me souviens parce que j'en ai bénéficié, on arrivait à la dernière minute, et s'il restait des places disponibles, ce qui était parfois le cas, on avait droit pour une somme modique à la meilleure place disponible.
Oui, mais aussi pour les groupes scolaires, au début, on avait tendance, par tradition, à mettre les groupes scolaires au quatrième balcon, et effectivement, c'était... on perdait moins d'argent à les faire venir pour très très peu d'argent. Et puis, on s'est rendu compte que c'était complètement contre-productif, et donc on a progressivement amélioré les places des groupes scolaires. Et ces dernières années à Aix, quand on fait des représentations avec un public scolaire, c'est essentiellement, c'est l'ensemble de la salle qui est mis à leur disposition, et on évite sciemment de leur donner de mauvaises places, parce que je pense que c'est vraiment contre-productif. Alors, ça engendre bien sûr des conséquences économiques financière qu'il faut pouvoir gérer, c'est un peu la quadrature du cercle, mais ça n'est pas impossible, et on peut aujourd'hui notamment chercher, outre les subventions, des formes de mécénat qui vont justement couvrir ce type de politique jeune. L'autre partie de votre question, c'est la question du prestige de certains bâtiments et du fait que ce prestige peut être éventuellement un facteur d'éloignement une sorte de seuil infranchissable. Alors, je crois qu'il y a différentes manières de résoudre cette tension-là, qui est réelle, qui existe, mais je pense qu'on peut la travailler de différentes manières. D'abord, quand on a mis en place des visites régulières, notamment le vendredi à la Monnaie, je pense qu'elles existent encore aujourd'hui, on commençait souvent par visiter les ateliers, c'est-à-dire par rentrer par l'endroit où l'on travaille avec les mains, où l'on fabrique, où l'on crée des décors, où l'on fabrique des costumes, où l'on peint, etc. Et ensuite, on allait visiter le lieu de représentation, qui, lui, est beaucoup plus prestigieux. Mais donc, on voyait la relation entre le processus du travail artisanal et le lieu où l'on allait effectivement le partager avec la collectivité. C'est une première manière de trouver un chemin qui permet de rentrer dans la maison sans d'emblée étouffer ses visiteurs sous les ors. Deuxième constatation, c'est que pour beaucoup de jeunes, moi je l'ai vu, je me souviens que le jeune Vincent Compagny, quand il jouait encore en Belgique, avait parlé d'une visite de la Monnaie comme d'une chose absolument magnifique qu'il avait impressionné.
Je précise quand même pour nos auditeurs français que Vincent Compagny est le capitaine de l'équipe des Diables Rouges.
Et donc, de voir qu'un jeune footballeur très populaire dans son pays était passé par la Monnaie, en avait gardé une belle image, j'avais trouvé ça assez remarquable. Et on a eu, à Aix-en-Provence, souvent l'occasion d'accueillir des groupes, des personnes venant de milieux qui, traditionnellement, ne vont jamais à l'opéra, et de pouvoir les accueillir dans les ateliers ou dans les lieux de représentation, c'est quelque chose qui est très bien. Et du coup, tout ça doit mener effectivement à la représentation, mais je pense qu'il faut éviter, dans la mesure du possible, de projeter sans préparation ces nouveaux publics, et notamment les jeunes, dans le monde de l'opéra sans leur avoir donné un minimum de clés. Et donc, c'est ce qui fait que nous avons mis en place des cycles d'activités, et en général, quand les jeunes viennent assister à un spectacle au Festival d'Aix, c'est au terme de 5, 6 ou 7 activités qui ont eu lieu pendant l'année et qui créent aussi un désir, une curiosité, et qui fait que des ouvrages, même relativement compliqués, austères, longs, etc., peuvent à ce moment-là être beaucoup plus facilement assimilés. Alors que si on les avait projetés sans préparation, ça aurait été un refus définitif.
Il y a un double constat quand on est un examinateur de la vie des maisons d'opéra depuis plusieurs années. On constate deux choses. Premièrement, c'est litanie éternelle sur le vieillissement du public, la disparition de certaines personnes qui malheureusement disparaissent à la fois des maisons d'opéra et de la vie terrestre. Et puis, si on met en parallèle, ces chiffres qui sont toujours les mêmes de fréquentation de salles qui tournent bon an mal an autour de 97% de maison en maison. Il y a là aussi comme un petit paradoxe.
Alors, moi, aujourd'hui, j'aurais tendance à penser que les institutions qui affichent 100% ne sont pas des modèles à suivre. Parce que 100%, ce qui était un peu le cas de la Monnaie à l'époque de Gérard Mortier, et encore dans les années qui ont suivi, ça n'est pas l'indice d'une bonne santé. Il faut pouvoir accepter que certaines représentations sont moins suivies, et que quand on fait une création mondiale, on va peut-être avoir 70-80% de taux de remplissage, et que c'est très bien aussi. Hein, donc je pense qu'il ne faut pas être victime de cela. Et par ailleurs, Moi, j'ai vu ces dernières années, en particulier en France, et peut-être plus en France d'ailleurs que dans d'autres pays européens, à Lyon, à Strasbourg, à Lille, et j'en passe, des salles dans lesquelles la proportion de jeunes était absolument formidable. Et d'ailleurs, quand on voit les chiffres de ces opéras, les jeunes y représentent à peu près entre 20 et 30% du public annuel. Donc voilà, ça montre que on est dans un moment d'évolution formidable, parce qu'il y a 20 ans ou 30 ans, on n'était pas du tout dans ces chiffres-là. Donc à la fois, il y a ce vieillissement qu'on constate dans certains pays ou dans certaines maisons qui continuent à vivre un petit peu en vase clos, et puis ailleurs, là où le travail se fait en profondeur, et pas forcément de manière démagogique, mais avec cet esprit de la vitalité, de la création dont je parlais plus tôt, eh bien, on peut effectivement arriver à aller à la rencontre de nouveaux publics, qui sont, à vrai dire, des publics magnifiques. Parce que une chose que je voudrais vraiment, une idée reçue que je voudrais vraiment contredire avec force, c'est l'idée qu'on fait tout ça dans un esprit de paternalisme. Et de dire que des jeunes, des enfants qui viennent à l'opéra, ou des personnes qui n'y sont jamais venues, ou des personnes qui viennent éventuellement de milieux très défavorisés, que c'est bien pour eux parce que, voilà, ça va leur donner peut-être. Bon, c'est absolument pas comme ça qu'il faut voir les choses aujourd'hui. C'est de se dire que ces publics-là, c'est nous qui en avons besoin, c'est nous, les artistes, les responsables culturels, parce que ces publics-là, ces personnes-là, nous apportent quelque chose de différent. Et mon expérience a vraiment montré que plus les personnes avec lesquelles nous pouvons entrer en contact sont dans un état de fragilité, pour des raisons de santé, pour des raisons sociales, pour des raisons diverses, plus leur rapport à l'œuvre d'art sera intense et essentiel. Et ça, c'est une leçon qui, dans une période de consumérisme comme la nôtre, est une leçon formidable. C'est de se dire, je peux être un grand connaisseur de musique et un être très cultivé, mais peut-être y aura-t-il chez cet enfant, chez cet autiste ou chez cette personne gravement malade, quelque chose encore bien supérieur à ma compréhension de l'œuvre. Ça, pour moi, c'est absolument fondamental et ça change du coup le cœur de la relation entre l'institution culturelle et son public.
A contrario, comment gérez-vous les spécialistes de la spécialité, les aficionados d'opéra qui prennent des billets de train pour aller écouter Madame Netrebko dans tel rôle à Munich et qui éventuellement se mettent à huer quand elle rate son contre-dièse?
Mais bah, d'abord, j'aurais tendance à dire qu'il ne faut pas cracher dans la soupe et que s'il y a des gens aujourd'hui qui sont encore suffisamment passionnés de l'opéra pour voyager, pour se payer des places chères ou pas chères d'ailleurs selon les lieux, mais pour aller suivre la vie du monde de l'opéra à travers l'Europe ou même au-delà, bah, prenons soin de ce public, c'est formidable, bravo. Hein. Franchement, je pense qu'il faut. Et que nous ayons parfois des désaccords, que des passionnés soient des passionnés des voix et pas de l'opéra dans sa globalité, ben voilà, ça fait partie des caractéristiques du monde de l'opéra. Personnellement, je ne me suis jamais considéré comme un lyricomane. Et ce n'est pas toujours le plus facile d'ailleurs de nouer le dialogue avec des personnes qui ont des attentes extrêmement précises sur le plan vocal, sur le plan de ceci ou de cela. Mais en même temps, je trouve que ces mélomanes et d'une manière générale, les personnes qui sont forment le premier cercle de ce qu'on peut appeler les amis des maisons d'opéra, c'est un public important dont il faut prendre soin, mais finalement, comme de tous les spectateurs. Et je trouve qu'aujourd'hui, il y a une évolution là aussi qui est positive. On voit dans beaucoup d'institutions se développer les introductions qui précèdent la représentation d'opéra et qui sont de plus en plus suivies. Parce que les gens viennent, en particulier si c'est une œuvre moins connue, ou un metteur en scène avec une très forte personnalité, ils vont pouvoir retirer quelques clés qui vont leur permettre de s'approprier la représentation de la manière la plus libre qui soit. Moi, j'ai toujours dit aux personnes qui faisaient ces introductions, ne dites jamais au public ce qu'il doit percevoir, mais donnez-lui des clés pour rentrer librement dans la proposition qui lui sera faite. Donc ça, c'est formidable. Et je pense que les meilleurs publics aujourd'hui, ça c'est vraiment une règle à laquelle je crois dur comme fer, ce sont les publics les plus mixtes possibles, c'est-à-dire des publics dans lesquels on a des salles dans lesquelles on a des jeunes et des vieux, des riches et des pauvres, des gens qui viennent de près, des gens qui viennent de loin, et que cette mixité qui est finalement à l'image de nos villes et de notre monde, qu'elle puisse se retrouver dans nos salles d'opéra, c'est la meilleure chose qui puisse se passer.
Alors j'en viens au métier de directeur d'opéra, Bernard Faucroulle. On a le sentiment que certains directeurs de maisons d'opéra sont aujourd'hui devenus des programmateurs élitaires qui tentent de mettre la main sur les metteurs en scène à la mode et qui se contentent finalement de pérenniser des formules inventées par d'autres il y a 10-20 ans. Alors on peut avoir un respect infini pour Krzysztof Warlikowski, on peut avoir un respect infini, mettons pour tous les tenants de cette esthétique-là. Est-ce que le rôle d'un directeur de maison d'opéra, ce n'est pas aussi de trouver les Krzysztof Warlikowski de demain ?
Oui, c'est fondamental. C'est d'ailleurs ce que je disais tout à l'heure qui ne se passe plus en Italie, c'est que les jeunes metteurs en scène, aujourd'hui, n'ont pas accès au marché du travail lyrique, ou très très peu, dans un pays comme celui-là. Et probablement, y a-t-il... dans nos pays, en France, en Belgique, et même en Allemagne, à faire un effort substantiel pour donner davantage de travail et de perspectives de développement aux jeunes, pour les accompagner aussi, pour ne pas les jeter dans l'arène sans préparation, mais pour les accompagner, en particulier les compositeurs, tout ce qui touche à la création, je pense, mérite un accompagnement particulier, pour développer le rôle des artistes féminins, qui est aujourd'hui très insuffisamment présent, et c'est d'ailleurs une autocritique que je me fais. Je n'y ai pas été suffisamment attentif pendant une bonne partie de ma direction à Bruxelles, et un peu plus à Aix quand même. Mais je pense que là aussi, ce n'est pas uniquement pour satisfaire et pour permettre à des femmes artistes de faire carrière, c'est que nous avons besoin de leur regard aujourd'hui et que c'est absurde de penser que la moitié de l'humanité ne serait pas représentée quelque part dans le répertoire de l'opéra. Et c'est effectivement un problème, c'est-à-dire que ce répertoire et le regard qui est porté sur l'opéra est un regard essentiellement masculin. Et donc aujourd'hui, on a vraiment besoin de rééquilibrer. Et puis, non seulement dans le rapport des genres, mais aussi dans la question de la diversité. Et donc, il me semble très important aujourd'hui d'être attentif aux talents qui se révèlent dans les milieux issus de la diversité, les milieux issus de l'immigration, la circulation des talents, etc. Je pense que là, il y a vraiment quelque chose qui peut être très très important pour le devenir de l'opéra à relativement court terme.
Bernard Faucroulle, terminons par ceci. Vous avez décidé, au terme d'une belle carrière, d'arrêter de diriger le Festival d'Aix-en-Provence et de ne pas vous porter candidat à d'autres institutions, alors que vous auriez pu très facilement le faire. On pense évidemment à Charles Quint au couvent de Saint-Just, ou bien à Marin Marais qui retirait des voitures, s'amusait à cultiver ses roses. Quelle est la vie après la vie de directeur de maison d'opéra ?
Je pars un petit peu comme je suis arrivé, c'est-à-dire que j'étais à la base musicien. Gérard Mortier m'a invité à penser à prendre sa succession. J'ai beaucoup hésité, j'ai accepté et je suis resté contre toute attente 27 ans aux commandes d'institutions lyriques majeures en Europe. Je l'ai fait avec passion et avec un plaisir infini, avec aujourd'hui aussi de temps en temps des difficultés non négligeables qu'il fallait résoudre. Et aujourd'hui, il me semble que c'est important de refermer ce cycle pour pouvoir non pas quitter le monde de l'opéra et le monde de la musique, mais au contraire pour y revenir par d'autres détours qui seront sans doute ceux de l'écriture et de la composition. Et donc, il y a à la fois un élément de continuité qui traverse l'avant, le pendant et l'après. C'est bien sûr la musique, la voix, l'intérêt pour le théâtre et pour toutes les dimensions interdisciplinaires. Mais en même temps, je pense que la lourdeur administrative, politique, sociale de gérer ces grands ensembles, c'est quelque chose que je ne souhaite pas forcément à quiconque de vivre toute sa vie.
Merci Bernard Faucroulle.